Je voulais reprendre un peu ce que j'ai dit hier soir pour préciser bien les points, puisque hier soir je n'ai fait qu'évoquer un petit peu le sujet de la méditation. Essayer de voir ceci un peu plus dans le détail. Donc la méditation, comme nous la pratiquons ici, c'est ce que nous appelons vipassana, qui veut dire vision pénétrante, voir de manière plus claire, plus tranchante, et qui n'est pas une méditation de tranquillisation de l'esprit. Et ces deux types de pratiques dans la tradition bouddhique sont les types selon lesquels les différentes pratiques de méditation sont divisées, soit dans la vision pénétrante, soit dans les méditations qui visent à tranquilliser l'esprit. Même s'il y a ici aussi un aspect qui tranquillise, mais ce n'est pas l'aspect principal. L'aspect principal est cette vision pénétrante, cette manière plus tranchante de voir la réalité. Donc tout ceci sont des termes évidemment qui demandent à être un peu explicités, ce qu'on va faire partiellement ce soir et puis aussi dans les jours à venir. Dans la méditation vipassana, eh bien, il ne s'agit pas d'utiliser la pensée comme outil, comme dans beaucoup d'activités ou une réflexion philosophique. Donc la méditation n'est pas limitée, enfermée, assujettie à la raison, comme elle peut l'être en philosophie, mais au contraire, elle s'ancre dans l'expérience elle-même. Il s'agit dans la méditation non pas de réfléchir, mais d'être conscient. D'être conscient de toute expérience. Donc être conscient ne veut pas dire penser, être conscient, être présent. Pour certaines personnes, il semble qu'il n'y a pas de présence concevable sans penser, comme si lorsque on cesserait de penser, on ne serait plus présent. Lorsqu'il n'y aurait plus de pensée, il y aurait une sorte de somnolence profonde ou de torpeur. C'est une chose assez étonnante que de voir de cette manière-là. Je cite donc Paul Valéry ici, qui vient à notre escousse et qui dit « Parfois je pense, parfois je suis ». On marque bien ici cette différence, sans qu'il soit nécessaire d'opposer la pensée et le fait d'être, parce qu'on peut aussi être lorsqu'il y a de la pensée. Il n'y a rien n'enlève cette conscience. Mais en tout cas ici, il marque bien qu'on peut parfaitement être sans qu'on pense. Et ceci est une chose assez surprenante. Parfois, on a l'impression que lorsqu'il ne se passe rien dans la méditation, ou qu'on a l'impression qu'il ne se passe rien, alors on se dépêcherait de penser pour qu'il se passe quelque chose. Comme si cette pensée représentait un enrichissement. Complètement inintéressante, comme beaucoup de pensées qu'on a dans la méditation. Il y en a qui sont intéressantes, heureusement, mais il y en a qui sont complètement inintéressantes, ça ne nous empêche pas d'y revenir, de nous y attacher. Donc on se rend compte ici que ce qui nous importe d'une certaine manière, c'est le fait de penser plus que ce à quoi nous pensons. Donc l'expérience ici, et non pas la pensée. Et dans le langage, il est important de faire une distinction entre conscience et connaissance. Une distinction qui est rarement faite. Et sans cette distinction, alors on a de la peine à comprendre ce qu'est la méditation. On se perd. Donc la connaissance est ce qui nous concerne quotidiennement. La connaissance est une manière de transposer toute expérience en données, de sorte qu'on puisse conserver ces données, qu'on puisse les regrouper, les comparer, les opposer. On peut accumuler la connaissance. Des gens ont beaucoup de connaissances. J'ai acquis des connaissances. Quand on les regroupe dans des volumes, on peut en faire des encyclopédies qui sont immenses. Grands volumes. Donc la connaissance est bien quelque chose de saisissable, qu'on peut échanger, on transmet les connaissances. Et c'est bien ce qui nous intéresse dans la vie quotidienne. Nous avons besoin de connaître. Par exemple, connaître les champignons comestibles. Vaut mieux ne pas se tromper. Donc cette connaissance est utile. Et constamment, ce qui nous intéresse, c'est la connaissance et pas l'expérience. Il suffit de voir combien vite nous nous détournons de l'expérience lorsque nous en avons tiré la connaissance. Un peu comme si d'une expérience nous tirions la connaissance nécessaire et ensuite l'expérience ne nous intéresse plus. Prenons un exemple, si nous devions nous promener dans une forêt où il y a des fleurs, alors si on connaît pas le nom d'une fleur, on s'interroge, on la regarde, qu'est-ce que ça peut être? Mais si une personne vient nous donner le nom de la fleur, ah voilà, c'est ça, on passe à autre chose, une autre fleur qu'on ne connaîtrait pas. Maintenant, on a cette fleur, on la possède. On pourra dire, dans la forêt, j'ai vu telle et telle fleur. Sans qu'on se soit plus préoccupé vraiment de toutes les nuances de couleurs qu'elle pouvait avoir. Puisque d'une certaine manière, c'est suffisant pour être fonctionnel, pour être utile. Il suffit que nous ayons reconnu les éléments. Si dans un parking, je cherche ma voiture ou dans une ruelle, et tout d'un coup je la reconnais, ça suffit. Je ne vais pas en observer les nuances de couleur à cause de cet éclairage selon l'environnement, me dire tiens, c'est intéressant, là elle paraît un petit peu plus claire, là un petit peu plus foncée, là il y a des zones d'ombre. La seule chose que quelquefois on remarque, tiens, elle a besoin d'être lavée, mais autrement on ne va pas beaucoup plus loin. Donc, encore quelque chose d'utile. Donc simplement, cette connaissance est ce qui nous permet d'utiliser les éléments. Donc cette transposition d'une expérience en quelque chose qu'on peut conserver en mémoire, dont on peut se rappeler. Donc on le fait ici, je parle du nom de fleur, mais de la même manière, lorsqu'il y a une perception aussi simple, une belle lumière, on ne peut pas dire que c'est aujourd'hui, on a eu peut-être en fin de journée, mais si on a vu quelque chose peut-être de touchant, qui nous plaisait, eh bien, on en garde un souvenir en mémoire, mais ce souvenir de l'expérience, on l'a transformé en un souvenir, ce n'est pas l'expérience elle-même. Si c'était l'expérience elle-même, on pourrait revivre toujours les mêmes choses. On pourrait revivre sa vie combien de fois on veut. Or, évidemment, ce n'est pas le cas. On peut se souvenir, mais le souvenir n'a pas du tout la nature de l'expérience. Il n'a pas la richesse de l'expérience. Si le souvenir ou l'image avait la valeur d'une expérience, alors au lieu de partir en vacances, on prendrait des brochures de voyage. On s'installerait dans un fauteuil, avec la température idéale, et puis on passerait ces 15 jours à feuilleter le prospectus de voyage. Mais évidemment, ce n'est pas la même chose que l'expérience elle-même d'être au bord de la mer ou d'être à la montagne. Donc nous transformons les expériences visuelles, les expériences du goût, les expériences auditives, immédiatement en données qui constituent la mémoire. Ce qui a quelque chose d'un peu troublant parce qu'on peut très bien être assis tranquillement, disons même en méditation, et tout d'un coup se souvenir d'autre chose, se souvenir de hier ou d'avant-hier, et avoir d'une certaine manière l'impression que nous sommes hier ou avant-hier. Tellement le souvenir a l'apparence de la réalité. Ça montre très bien la force du souvenir ou de l'anticipation. On se réjouit de quelque chose. Je ne peux plus attendre. Donc il y a bien une force dans cette image que nous nous créons du futur ou du souvenir. Mais cette image, elle vient immédiatement se coller dans la perception. Lorsque nous voyons immédiatement surgit ce souvenir, cette image de l'expérience elle-même, Et finalement, cette image de l'expérience elle-même, elle se substitue même pendant la perception, ce qui fait qu'il y a moins de différence qu'on pourrait l'imaginer entre la perception, l'expérience réelle et le souvenir. Parce que le souvenir, il vient déjà là dans la perception. L'anticipation, elle vient déjà là dans la perception. Et de cette manière-là, il y a une certaine confusion dans la perception lorsque nous nous attachons à ce qui est déjà de l'ordre de la mise en forme, de la mise en concept. Et cette mise en forme ou cette mise en concept, puis, ben voilà, ça c'est de la philosophie. Peu importe finalement, je me contenterai de la perception habituelle que j'ai. Pourquoi pas, mais ce concept que nous mettons, ce souvenir, si vous voulez, que nous créons immédiatement quand il y a la perception qui vient se substituer à l'expérience, qui est une expérience de souvenir, pas une expérience de vision. C'est aussi ce qui nous attache, ce qui nous enferme, ce qui amène une certaine confusion. Le souvenir a une stabilité, une nature que n'a pas l'expérience. L'expérience elle-même, elle change d'instant en instant. Je parlais de la belle lumière peut-être qu'il y a eu en fin de journée, mais elle n'a pas duré longtemps. Si vous l'avez vu par la fenêtre ici, peut-être le temps de sortir du temple et tout d'un coup, bien la salle de yoga, tout d'un coup, la lumière a déjà changé. Il y a quelque chose d'insaisissable dans l'expérience elle-même. Or, le souvenir que nous plaquons lui donne une sorte de stabilité, de certitude. Nous vivons dans un monde beaucoup plus solide et certain, stable, que si nous étions plus fluides, plus en phase avec les expériences. Donc c'est pas une question, c'est qu'une question de liberté, de voir comment on peut s'enfermer dans cette manière d'interpréter ou de transformer toutes les expériences. Non pas que nous nions l'aspect utilitaire et que nous l'utilisons dans la vie quotidienne constamment et aussi ici dans notre quotidien. Nous avons besoin de ceci. Mais le souvenir n'est pas l'expérience, il a une structure complètement différente. Le souvenir ou l'anticipation pourrait passer sa vie à rêver sa vie, à l'imaginer. Il y a pas mal de personnes qui font ceci, étant toujours dans l'anticipation, de plus d'accumulation, ou par anxiété, ou par inquiétude, où finalement, les personnes ne sont jamais dans l'expérience qui est là dans l'instant, mais toujours dans l'anticipation, par inquiétude, ou bien là, par regret, ou autre, par tristesse, dans le passé. Complètement dans un monde imaginaire, et dans le fond, passe à côté de la vie, simplement en substituant au vivant, au réel de l'imaginaire. Donc on ne va pas, dans la méditation, partir en chasse contre l'imaginaire ou l'anticipation, mais simplement reconnaître les expériences pour ce qu'elles sont, la perception pour la perception, le souvenir, la mémoire pour le souvenir, la mémoire, l'anticipation pour l'anticipation, qui se passe en cet instant lorsque nous nous souvenons. C'est en cet instant que nous nous souvenons. Lorsque nous anticipons le futur, c'est en cet instant. On ne peut pas sortir du présent. On peut essayer, moi, j'ai rien contre, mais c'est quand même assez difficile. Et pourtant, d'une certaine manière, on a toujours l'impression qu'on se déplace dans la temporalité, en allant un peu dans le passé, un peu dans le futur. On n'a pas l'impression que nous sommes constamment dans cette dimension qu'on pourrait appeler présent. Donc cette distinction entre le souvenir et l'expérience est importante. Donc tout souvenir, anticipation font toujours appel à ces données, c'est du type de la connaissance, de ce dont on se souvient, ou même de ce qu'on peut anticiper, ou cette manière de conceptualiser ce qui se passe, de pouvoir juger. Voilà, ça c'est une fleur, c'est cette fleur, c'est celle-ci. Ou des jugements, elle est belle, elle n'est pas belle, on rajoute des choses. Comme si la fleur en elle-même il y avait des belles fleurs et des fleurs qui ne sont pas belles. Donc non seulement on nomme la fleur, mais ensuite on projette des catégories qui nous enferment. Un poème de Pessoa qui exprime ceci magnifiquement. Il dit le souvenir est une trahison de la nature, parce que la nature d'hier n'est pas la nature. Et ce qui fut n'est rien. Ce souvenir n'est pas voir. C'est une distinction de manière très claire. Donc en méditation, cette distinction est très importante. On va essayer de comprendre ce qu'elle veut dire. Pas rester dans quelque chose de trop abstrait. Je lisais un petit texte d'un scientifique et j'ai retenu deux pensées qui me semblaient intéressantes. Le reste me semblait moins intéressant, mais ça m'a semblé comme formulation, quelque chose qu'on pourrait formuler différemment, mais cette formulation m'a semblé intéressante. Il dit qu'il faudrait distinguer deux niveaux de conscience, un niveau évolué, un niveau moins évolué. Donc je vous dis ce qu'il écrit là. De ce fait, je crois qu'il faut faire une distinction entre la conscience primaire et la conscience d'ordre supérieur. La conscience primaire, elle est consistant à être conscient des choses et du monde, avoir des images mentales dans le présent. Donc, type de la connaissance. Les humains ne sont pas les seuls à la posséder, c'est aussi le cas des animaux. La conscience, au contraire, la conscience supérieure implique l'aptitude à être conscient d'être conscient. Elle permet la reconnaissance par le sujet pensant de ses actes et de ses affections. Donc ici, on a deux niveaux de conscience, si vous voulez, un plus évolué, un moins évolué. Le niveau moins évolué, c'est celui, dans le fond, qui se contente de cet aspect utilitaire, de reconnaître ce qui est bon et mauvais dans la nature, ce qu'on peut manger, ce qu'on ne peut pas manger, ce dont on doit se méfier, ce dont on doit se défendre. Donc c'est une manière de fonctionner très importante. Et ici, il dit, donc c'est quelque chose évidemment que les animaux ont également, et quelquefois plus développé que nous. Il y a donner des sens qu'elles ont bien plus développé que nous. Donc cet aspect-là qui est aussi l'aspect le plus fréquent dans lequel nous trouvons. Et cet aspect plus évolué qui est cette conscience d'être conscient que nous appelons présence. Où non seulement nous sommes conscients de l'objet que nous voyons, de l'oiseau que nous entendons, ou de la boisson que nous buvons, mais nous sommes conscients d'entendre, conscients d'être conscients, donc conscients d'entendre, présents dans cette expérience de l'audition, présents dans cette expérience de la vision, présents dans cette sensation corporelle. Et là, il y a une grande différence. Et qui fait un peu l'enjeu de la méditation. Il ne s'agit pas pour nous, dans la méditation, de faire l'inventaire de tous les sons qu'on peut entendre. Si on devait marquer, voilà, j'ai entendu des gens qui toussaient, des gens qui éternuaient, un peu de bruit, des bruits de châles, etc., de chaises. Ça, c'est évidemment complètement inintéressant, surtout que c'est assez répétitif. Ce qui est plus intéressant, c'est cette conscience de soi dans cette expérience-là, cette présence qui est révélée par l'audition. La statue de Bouddha derrière moi, elle n'entend pas, elle n'a pas de présence. Mais lorsque on est conscient d'entendre quelque chose, ça veut dire que nous sommes là. C'est ça qui est important. Chaque expérience révèle à la fois un objet, une personne qui tousse, mais elle révèle aussi cette expérience, qu'il y a une conscience pour faire cette expérience. Et ce qui nous intéresse dans la méditation, on renverse un peu l'intérêt. Ce n'est plus tellement dans la reconnaissance de la fleur, mais ce qui nous intéresse, c'est qu'il y a là une conscience pour voir cette fleur, dans cette présence qu'on pourrait avoir face à la fleur. C'est toujours la manière dont chaque expérience nous révèle à nous-mêmes. Donc on change l'enjeu, et c'est difficile parce qu'en méditation, très souvent, on vient avec les mêmes enjeux de la vie quotidienne. Avoir de bonnes expériences, ne pas avoir les mauvaises expériences. Et ainsi, on est toujours dans le niveau moins évolué de conscience, où ce qui nous préoccupe, c'est ce qu'on voit, ce qu'on entend, non pas le fait de voir ou le fait d'entendre. Il y a donc là une sorte de renversement subtil et toute la compréhension de la méditation dépend de la manière dont on peut avoir la sensibilité pour ce renversement, pour une sorte de désintérêt ou désinvestissement, de toujours vouloir nommer ou saisir ce qui se passe autour de soi. Pour ceci qu'un cadre comme nous avons, qui est un cadre bien protégé, nous permet d'être dans cette exploration. Dans la conscience, il y a toujours cet aspect de conscience de soi, mais il est la plupart du temps extrêmement fugitif, quelque chose d'assez fragile, tellement nous sommes fascinés, concernés par ce que nous voyons, ce que nous entendons. À nouveau, nous avons tellement dû développer ceci par notre éducation, par les besoins de la vie. Il est important que nous sachions bien déterminer ce qui nous entoure. Donc cette présence à soi, dans l'expérience, conscience de soi, dans chaque expérience, est quelque chose que nous négligeons. L'oubli essentiel de nos expériences, de notre vie, c'est nous-mêmes en tant que conscience, en tant que présence. C'est extraordinaire. Nous nous affairons tellement et nous nous oublions. Donc on peut passer sa vie en s'oubliant. Donne une citation de Jung qui disait, je cite de mémoire, il dit que c'est tout à fait la manière dont il l'a exprimé, mais il dit la conscience est un phénomène très récent dans l'univers. Elle n'en est encore qu'à ses premiers balbutiements. Ici, on pourrait dire cette conscience de soi qui est encore assez fragile. Pas la conscience qui permet de percevoir, d'entendre, de nommer, celle-ci semble assez bien stable. Mais cette conscience de soi est plus fragile. Je donne une autre citation d'un élève de Jung, qui s'appelle Neumann, à nouveau de mémoire. Il dit « La conscience est comme une île engloutie dans l'océan de l'inconscient qui refait surface par moments très brefs pour s'engloutir à nouveau. » Une belle image. Enfin, donc là, cette conscience ici, présence de soi, elle est là, quelque chose de fragile qui surgit quelques instants et qui disparaît tout d'un coup, qui disparaît dans les perceptions qu'on peut avoir de tout ce qui nous entoure, les pensées, les préoccupations, pour réapparaître à d'autres moments. Mais très, assez rare. Et ce que nous essayons de développer dans la méditation, c'est peut-être laisser surgir un petit peu plus cette île de cet océan, pour qu'il y ait plus de présence. Donc on verra aussi par la suite que cette présence est aussi synonyme de liberté. Ce n'est pas une fin en soi, il s'agirait juste d'être présent. Voilà l'objectif de la méditation, c'est le chemin par lequel nous passons. Donc être conscient est différent de connaître. Être conscient, c'est cette manière d'être présent, de se découvrir soi-même en tant que conscience dans l'expérience, d'être dans l'audition, dans la vision, dans toute expérience, avant qu'on transforme ceci en donné. Donc c'est quelque chose de plus intime dans l'expérience. Elle est primaire par rapport au fait d'élaborer quelque chose. Et cette élaboration a un sens, a une utilité. Mais elle ne nous permet pas d'approfondir, de voir clairement ce qu'est la réalité. C'est là que le terme vipassana s'exprime. Il voit à travers ces constructions, ces conceptualisations que nous faisons, de venir à quelque chose de plus primitif dans notre expérience. Pour essayer d'être là dans l'expérience elle-même, avoir cette conscience ou cette présence, conscience de soi dans l'expérience. Donc conscience est connaître, et connaissance sont deux choses différentes. Même à nouveau, si le langage est un peu compliqué, et quelquefois on emploie connaissance quand on voudrait employer conscience. Je cite le Satipatthana Sutra, qui est vraiment le un peu le sutra de base pour la pratique de vipassana comme elle est enseignée ici, il est dit selon les traductions les plus fréquentes, je ne sais pas si elles sont justes par rapport au pali que je ne connais pas, mais lorsqu'un méditant marche ou une méditante marche, il sait, je marche. Oui, c'est une manière de dire il sait, qui est évidemment assez flou. Et difficile d'imaginer qu'on soit en train de marcher sans savoir qu'on marche. Qu'une personne vienne vous dire, je ne sais pas si tu as remarqué, mais tu marches. Ah non, vraiment, c'est absurde. Donc ce n'est pas savoir, c'est être conscient, être parfaitement présent. Lorsqu'un méditant, une méditante marche, il ou elle est consciente de marcher, totalement présent. On peut très bien savoir qu'on marche et penser à beaucoup d'autres choses. Cette connaissance, elle est là. On ne l'a pas perdue. Donc ici, conscience est beaucoup plus claire que connaissance. Mais nous avons une telle habitude de tout réduire à la connaissance que même dans le langage de la méditation, il y a encore cette tendance qui vient. Un peu comme si tout avait de la valeur. On évaluait la valeur de chaque chose, mais le temps, c'est de l'argent, etc. Maintenant, pour nous, toute expérience doit être ramenée à la connaissance. Comme pour la saisir, pour nous rassurer. Mais cette conscience, qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas si simple à comprendre. Si connaître, on n'a aucune difficulté, c'est simple, mais qu'est-ce que ça veut dire, cette présence, cette conscience de soi dans l'expérience? Si en tout cas pas une conscience personnelle qui dirait « Ah voilà, je fais ceci, je fais cela », c'est pas ça, c'est encore une élaboration, c'est quelque chose de beaucoup plus simple et qui à ce niveau-là est impersonnel. Le fait d'être là avant d'être ceci ou cela qui est là. Donc difficile à illustrer. Bon, pourquoi, dans le fond, c'est difficile à évoquer ce qu'est cette présence, cette conscience de soi avant la connaissance? Simplement parce que le langage, lui, il est à la solde de la connaissance. C'est son travail, c'est ce qu'il fait. Donc, quand tout d'un coup, on essaie de dire qu'est-ce qui se passe avant la connaissance et qu'on veut le faire avec des mots, c'est pas vraiment le meilleur allié. Et d'une certaine manière, c'est pour ça que nous pratiquons en silence pour découvrir ceci. Alors on peut bien, par des mots, essayer d'évoquer ceci et d'évoquer surtout ce qui fait obstacle. Mais on ne peut pas, par les mots, transmettre l'expérience de cette présence ou cette conscience de soi. Mais il y a quelques sutras dans les textes anciens qui essaient de décrire ceci. Ils ne sont pas nombreux qui essaient de donner cette sensibilité. Nous, on peut parler de beaucoup d'aspects, quelles sont les expériences à inclure dans la méditation et autres, les obstacles, si on veut placer les obstacles. Ceci n'est pas tellement difficile, mais qu'est-ce que c'est que cette sensibilité pour essayer d'avoir le goût de cette expérience plus intime? Donc je vous cite ce sutra, qui est assez intéressant, il met en scène un moine, qui s'appelle Malunkyaputta, qui est un vieux moine dans ce sutra. Le sutra d'ailleurs parle de Malunkyaputta, le vieux, parce qu'il apparaît dans un autre sutra où il est beaucoup plus jeune. Il est beaucoup plus jeune, il pose plein de questions au Bouddha, il est assez ennuyeux, on a l'impression qu'il est un peu angoissé, hein, poser toutes sortes de questions, est-ce que l'univers est fini, est-ce qu'il n'est pas fini, etc. Mais là, il est vieux, il vient demander au Bouddha, il dit, mais est-ce que vous ne voudriez pas donner à quelqu'un d'âgé, de manière très simple, l'essentiel de la pratique? On imagine qu'il a bien réfléchi, là, il commence à un peu s'être fatigué, il demande au Bouddha, mais dans le fond, qu'est-ce qu'il faut faire dans la pratique? Et là, le Bouddha lui répond, même à une personne jeune, je donnerai les mêmes conseils, pas de différence, je donnerai les mêmes conseils, et il le conduit par une réflexion intéressante. Il lui dit, envers ce que tu n'as pas vu, que tu ne vois pas et que tu ne verras pas, est-ce que tu éprouves du désir, de l'aversion, de la confusion? Oui, il place quelque chose d'étonnant. Envers ce que tu n'as pas vu, tu ne vois pas, tu ne verras pas. Donc, quelle est l'existence de ce qu'on n'a pas vu, ne voit pas et on ne verra pas? va dire qu'on peut en faire quelque chose de ceci. Le moine répond non, évidemment, il n'y a pas de confusion, désir ou aversion. Et il lui dit envers ce que tu n'as pas entendu, tu n'entends pas, tu n'entendras pas, est-ce qu'il y a du désir, de l'aversion, de la confusion à ce propos? Il lui dit non. Donc il cite les cinq sens et aussi la pensée. Et ce qui est intéressant là, c'est qu'il enlève un petit peu cette manière de traduire les expériences en choses. On a l'impression que dans l'expérience plus intime, on ne va pas dire c'est ceci, c'est cela, c'est avant cette formulation. Donc ici, c'est ce qu'il essaie de nommer. On va voir par la suite ce qu'il dit. Alors il dit, Malonkya Putra, quand dans la vision, il n'y aura que la vision, dans l'audition que l'audition, dans la sensation que la sensation, etc. Il dit, alors, il n'y a pas de moi ici, pas de moi là, pas de moi entre les deux. Ça, c'est la fin de la souffrance. Donc il décrit ici l'essentiel de la méditation. Quand dans la vision, il n'y a que la vision, qu'est-ce que ça veut dire ? Dans l'audition, que l'audition. Et c'est bien ce que nous explorons dans notre méditation. Prenons l'audition. Quand dans l'audition, il n'y a que l'audition, ça veut dire qu'avant que j'essaie de former ce que j'entends, le chant de l'oiseau, on n'entend pas beaucoup ces jours, mais enfin, imaginons le chant de l'oiseau ou une voiture qui passe. Et j'ai interprété cette expérience sonore. Immédiatement, il y a une voiture qui passe. Donc avant cette interprétation, je reste dans cette expérience. Comme je l'ai mentionné ici, on imagine une voiture, le son un peu spécifique, ce son de la voiture assez spécifique, hein, avec des sortes de roulements. Est-ce qu'il y a des intensités différentes? Est-ce qu'il y a des timbres différents? Quand je reste très proche de cette expérience-là, non pas en évaluant, je pose des questions ici, mais pour être à l'écoute, et qu'à ce moment-là, dans cette audition, il n'y a que l'expérience auditive. Il n'y a pas de voiture et moi qui entendrai une voiture. Il y a juste cette expérience-là. Je suis avant la création de « j'entends une voiture ». Dans l'audition, il n'y a que l'audition. Dans le goût, de la même manière, vous pouvez manger des aliments pendant les repas. Et alors, je mange ceci, mais être dans l'expérience du goût, dans la plus grande simplicité. Je donne ici, j'essaie d'évoquer un peu comment ça pourrait être décrit, mais c'est comme si c'est le goût qui se goûtait lui-même. C'est ça, dans le goût, il n'y a que le goût ici. Ou dans l'audition, il n'y a que l'audition, c'est comme si c'est l'audition qui sent dans elle-même. Il y a une unité dans l'expérience. Avant qu'on la scinde dans j'entends un son ou j'entends la voiture. Donc lorsqu'il y a cette intimité dans l'expérience à chaque instant, c'est ce qu'on appelle la présence méditative, c'est ce qu'on appelle la mindfulness, pour utiliser le terme anglophone. Dans cette intimité-là, le moi n'apparaît pas, il ne surgit pas, ni l'objet. Et d'après le sutra, le Bouddha affirme ici, c'est la liberté. La liberté parce qu'on ne s'enferme pas dans la création d'un sujet, d'un objet, on n'a pas créé une sorte de monde qui va nous enfermer ou dans lequel on va s'enfermer. Donc il ne s'agit pas ici de croire, ça ne servirait à rien, ça n'aurait d'ailleurs aucune force de conviction, mais d'essayer d'en faire l'expérience, d'être dans l'écoute avec le plus grand intérêt, la plus grande curiosité. On pourrait très bien entendre des personnes qui toussent, dire « encore elles toussent », etc., ou les voitures, mais pourquoi il y a des voitures qui circulent? On est déjà dans évidemment quelque chose de complètement inintéressant, on n'apprend rien avec ça. Mais d'essayer d'être dans, de s'ouvrir à cette expérience auditive. Alors il est bien possible que tout d'abord surgissent les images, des concepts, voiture, si c'est une voiture, ou vague personne qui tousse, etc. Ça c'est première réaction habituelle qui va être là. Et puis si on dit d'accord, j'ai compris, mais c'est quoi cette expérience auditive? Et tout d'un coup, on a cette sensibilité qui nous permet d'entendre cette variation dans le son et autres. Ça veut dire qu'on s'approche beaucoup plus de l'expérience, qu'on n'est pas là pour l'interpréter. On a vite compris ce dont il s'agissait. C'est pas ça qui nous intéresse. C'est tout d'un coup toutes ces fluctuations, toute la richesse qu'on ne nomme pas, on n'a pas besoin d'imaginaire à ce moment-là. Dans l'audition, il pourrait n'y avoir que l'audition. Il y a cette expérience d'unité, cette expérience de liberté. Dans toute expérience, la vision aussi. La vision, elle a aussi ses constructions. Ici, c'est très simple, ce que nous croyons, enfin, ou nous créons, nous voyons la salle de yoga, c'est comme ceci qu'on l'appelle. Mais chaque personne voit quelque chose de différent. Si nous prenions des photos exactement où sont nos yeux, on verrait qu'il n'y a pas deux images qui sont les mêmes. Et certaines sont complètement différentes, notamment la mienne, de beaucoup d'entre vous, puisque moi, je vois de ce côté-là, vous voyez de ce côté-là. Donc, immédiatement, nous créons la salle. Quand nous rentrons, nous voyons la même salle, nous marchons, nous asseyons, nous sommes toujours dans la même salle. Mais ça n'a rien à voir avec l'expérience de la vision. La vision a changé à chaque pas. Donc, nous substituons ici le souvenir presque à la perception, qui est très utile. Mais de cette manière-là, il n'y a aucune intimité à l'expérience. Donc on voit très bien quand vous marchez, essayez de vous rendre compte de quelle est cette expérience de la vision. La vision se passe où vous êtes. Elle ne se passe pas là-devant, ce que je vois semble devant, mais la vision, elle est ici, dans ma présence. Et ça, c'est différent. Donc ça, on peut l'explorer. De la même manière dans la sensation corporelle. Je sens mon bras. Là, j'ai déjà toute une construction avec une image d'une certaine zone du corps, mais quand je dis mon bras, est-ce que c'est mon bras avec ce pullover bleu que je vois, ou c'est un bras sans pullover? C'est quelque chose d'assez vague, cette image que je peux avoir. Mais dans le fond, la sensation, qu'est-ce qu'elle est? Si je m'y approche aussi, sentir juste la sensation s'éprouve elle-même comme qualité de présence. Il n'y a que la sensation. Manière d'être corps, d'être sensation corporelle. Donc ceci nous donne une manière de nous relier à nous-mêmes assez différente de celle de l'utilitaire qui vise toujours des projets particuliers. À nouveau, il ne s'agit pas de nier cet aspect positif, utile de l'utilitaire. C'est juste que ça devient le seul mode que nous avons d'être, projetant vers le passé ou vers le futur. Donc en méditation, nous ne sommes pas dans un mouvement horizontal qui viserait constamment des expériences d'observation. Je vais observer ceci, regarder ceci, observer le son. Langage un peu bizarre. Vous voyez, il n'y a pas cette orientation horizontale qui vise quelque chose que je veux découvrir. Il y a quelque chose de l'ordre vertical, de demeurer dans l'expérience qui est là, de reposer dans l'expérience qui est là. Et ce mouvement est assez important. Donc on cherche, on dirige l'attention. Quand on demande qu'est-ce qu'il faut faire, on est exactement dans cette orientation-là. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ça veut dire où est-ce que je dois tourner mon attention? Une sorte de lampe de poche qui est l'attention. On dit maintenant, où est-ce que je dois la diriger? Dites-moi ce qu'il faut faire. On dit, il ne faut pas diriger la lampe de poche. Non, mais alors je dois la diriger où si je ne dois pas la diriger? Vous voyez, on tourne un peu en rond. D'accord, je ne fais rien, j'ai compris, mais je fais quoi quand je fais rien? Alors je regarde où? J'observe quoi quand je fais rien? Hein? On a l'impression qu'on tourne en rond, et on le comprend très bien. Nous avons tellement l'habitude de fonctionner, et tout d'un coup, il s'agit de reposer sur l'expérience elle-même. Et c'est ce que nous appelons être par rapport à faire. Être à chaque expérience. Être cette tristesse, non pas je suis cette tristesse en l'enfermant dans une sorte d'histoire qu'on raconterait, mais simplement être cette somnolence, être cette audition où nous reposons, où la conscience repose sur elle-même dans cette expérience. Et chaque expérience, qu'elle soit positive ou négative, agréable ou désagréable, confortable ou inconfortable, peut être éprouvée comme manière d'être. Et à ce moment-là, dans cette expérience-là, le côté confortable, inconfortable, agréable, désagréable, perd complètement son importance. Ça n'a aucune importance. Je vais vous donner un exemple. C'est un petit peu comme si nous étions faits d'or et que nous prenions des formes différentes. Quelquefois, des formes d'un chameau, je ne sais pas, d'un cheval, d'une voiture, d'une fleur. Et que nous soyons tellement concernés par la forme que nous prenons que nous ne pouvons pas réaliser que nous sommes faits d'or. Ah non, non, mais là, non, non, mais là, il faut que je transforme. La fleur, ça ne va pas. Il faudrait la transformer en un arbre. Mais l'arbre, ça ne va pas. Il est trop petit, il est trop grand. Donc nous sommes constamment en train de transformer quelque chose dont la nature est toujours la même. Similaire. C'est-à-dire de présence, d'être et aussi de liberté. Mais tant que nous nous affairons pour transformer quoi que ce soit, on a l'impression que cette bonne guerre, c'est normal, cette difficulté, il faut que je la transforme, ça sera mieux sans cette difficulté. Et nous restons toujours dans la même confusion. En nous trompant l'enjeu, à ce moment-là, on peut des fois améliorer, on améliore un petit peu, on a transformé la forme, oh, c'est un peu plus joli comme ça, mais on a gagné quoi? Rien du tout. Plus belle forme qui ne dure pas nécessairement longtemps d'ailleurs. Donc c'est bien cette manière à chaque instant de se disposer, de s'ouvrir à l'expérience, prendre conscience de la conscience de l'expérience, être présent, qui nous permet de découvrir quelque chose d'une immense richesse. Alors que même si la méditation pouvait aider, elle peut aider à améliorer, calmer, tranquilliser, amener un peu de joie ou beaucoup de joie ou énormément de joie. Tout ceci est une richesse immensément limitée par rapport à ce que la méditation permet dans le sens de Vipassana. Même les méditations de Samatha, tranquillisation et autres ont pour but finalement d'aider Vipassana. Voilà, si vous voulez, quelques remarques pour... Essayez d'évoquer un petit peu cette attitude méditative. Nous allons revenir évidemment dans la pratique et dans les instructions pour parler aussi des manières que nous avons de compliquer les choses. La méditation n'est pas compliquée, mais nous compliquons beaucoup. Ça fait partie de la pratique, de se rendre compte comment nous compliquons les choses.